France Musique.
Bonjour à tous, nous sommes le samedi 20 mars et j'ai le plaisir de vous retrouver ce matin en remplacement de Saskia Deville exceptionnellement. Nous sommes en direct depuis les studios de France Musique à la Maison de la Radio et de la Musique. Félix Levaché à la réalisation, Emmanuel Morse-Duncan à la prise de son. Bienvenue à vous.
Musique Matin, Priscille Lafitte, France Musique.
Et c'est un musique matin strasbourgeois que nous vous offrons ce matin à l'occasion du festival Ars Mondo. Les équipes de samedi soir à l'opéra s'apprêtent à retransmettre ce soir en direct la création d'un opéra intitulé Aimon. Nous serons en duplex avec le compositeur de l'œuvre, le Libanais Zad Moultaka, et avec Alain Perroux, le directeur de l'opéra du Rhin. Rendez-vous à partir de 8h20. Dans un petit quart d'heure, nous serons au téléphone avec Renée Kuhn, directrice de l'AJAM, association qui promet les jeunes musiciens à Strasbourg. Elle nous parlera du soutien, si nécessaire, à la musique de chambre et aux instrumentistes qui se lancent dans le métier. À 8h, vous avez rendez-vous avec Battement de cœur. Marc-Olivier Dupin s'intéressera à la création pour cœur en temps de pandémie. 8h15, notre reportage de Sophie Anastasio. Elle se penchera sur la politique culturelle de la ville strasbourgeoise. Et enfin, en toute fin d'émission, juste avant 9h, ce sera l'heure de retrouver Christophe Chassol qui nous parlera d'un génie de l'arrangement, David Whittaker. Mais ouvrons cette matinée avec Berlioz, la damnation de Faust, puisque bientôt le vieil hiver fera place au printemps.
Thank you.
C'est la marche hongroise au premier acte de la damnation de Faust, un opéra gravé par l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg sous la baguette de John Nelson en 2019 avec les solistes Michael Spurs et Joyce DiDonato entre autres. Et cet enregistrement a été très bien accueilli par la critique et vient d'être récompensé d'un diapason d'or, une belle façon de reconnaître le travail effectué par John Nelson et l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg dans le répertoire de Berlioz. Ce même Orchestre Philharmonique de Strasbourg sera sur la scène de l'Opéra du Rhin ce soir pour la captation directe d'une création dont je vous parlais en introduction, création signée Zad Moultaka. Je vous en reparlerai dans une petite heure puisque nous serons au duplex donc avec le compositeur libanais ainsi qu'avec le directeur de la maison d'opéra. Puisque nous faisons un coup de projecteur sur la vie musicale en Alsace ce matin, c'est l'occasion de saluer le magnifique parcours de la chapelle Rhénane et de fêter l'anniversaire, les 20 ans de cet ensemble. Nous écoutions deux extraits de Es waren Hirten auf dem Felde de Johann Rosenmüller, donc la chapelle Rhénane dirigée par Benoît Haller. Pour marquer cet anniversaire, l'ensemble prévoit de donner 8 programmes différents durant l'année 2021. Les Lamentations de Charpentier, King Arthur de Henry Purcell, les 7 dernières paroles du Christ en croix de Haydn, des motets de Bach, le Messie de Handel, bref, du très beau répertoire que l'ensemble espère pouvoir donner dès que possible. Rendez-vous sur le site de la chapelle Rhénane pour prendre de leurs nouvelles et suivre les dates de concert. Un autre ensemble instrumental basé à Strasbourg, je vous propose d'écouter ce matin, c'est le Parlement de musique.
Thank you.
Parlement de musique dirigé par Martin Gester dans le deuxième concerto pour violon du Chevalier de Saint-Georges avec Stéphanie Marie Degand au violon solo. L'ensemble musical, le Parlement de musique attend donc que la tenue de concert soit de nouveau possible et tient prêt un programme riche avec le Tédéum de Charpentier, l'Aude à Sainte-Cécile de Handel, un programme que les musiciens de l'ensemble auraient dû donner en novembre dernier et qui attend donc d'être joué. Et à 7h45, nous sommes en ligne avec Renée Kuhn, présidente de l'AJAM, les Amis des Jeunes Artistes Musiciens à Strasbourg. Nous allons entendre votre choix musical ce matin à l'heure du petit déjeuner. Enfin, Strasbourg, c'est plutôt café avec Kubloff et Streutzel au menu.
Oui, à peu près, oui. Il faut le manger chez soi.
Ah oui. Renée Kuhn, merci d'être avec nous en ligne ce matin.
Merci à vous.
Quels sont les échos que vous avez des jeunes musiciens avec lesquels vous êtes en contact? Comment vont-ils?
Eh bien, écoutez, c'est très dur pour eux. Hein. En plus, ce sont principalement des étudiants. Donc, ils ne peuvent pas trop se débrouiller. C'est extrêmement difficile. On a mis en place un chômage partiel quand même pour qu'ils soient pas complètement délaissés, mais c'est une période extrêmement difficile. En plus, on ne sait absolument pas où on va. On ne peut pas absolument se projeter. Là, vous savez, nous on a eu des séries de concerts. Et donc,
vous en donnez à peu près combien par an pour qu'on se situe?
Nous avons un récital de piano. Nous ne savons pas du tout si on pourra le tenir ou pas.
Combien est-ce que vous organisez de concerts par an à peu près pour qu'on situe votre activité?
Alors, on a donc à peu près 5-6 artistes ou ensembles musicaux. Et chacun fait 5 ou 8 tournées en Alsace.
Comment est-ce que vous repérez ces jeunes musiciens? Comment est-ce que vous procédez?
J'ai la chance d'avoir comme amis des grands noms du conservatoire qui sont... Moi, je les ai connus souvent très jeunes et maintenant, ils sont à leur tour professeurs. Donc, j'ai pas trop de difficultés. Donc, on a vraiment les meilleurs des différentes classes des conservatoires, que ce soit Lyon, Paris, voilà.
Quelles sont les possibilités de salles de répétition, peut-être, à Strasbourg? Est-ce que vous faites aussi tourner des jeunes musiciens strasbourgeois?
Oui, absolument. Avec le conservatoire de Strasbourg, nous avons aussi quand les jeunes tournent à Strasbourg, ils vont au conservatoire de Strasbourg. Donc, et puis là, nous avons également, oui, des artistes qui sont issus du conservatoire de Strasbourg. Oui.
Renée Kuhn, vous désirez nous faire entendre ce matin le travail du trio Arnold, qui ont travaillé sur plusieurs trios à cordes de Beethoven. C'est un trio que vous suivez depuis combien de temps?
Écoutez, ils devaient jouer chez nous l'année dernière, au mois de mars, parce que c'était l'année Beethoven. Donc, on se réjouissait énormément de les avoir. Et ils préparaient justement ce disque, parce que l'AJAM aime bien donc inviter les jeunes qui sont en préparation de jeunes de concours, de grands concours, de disques, etc. Et là, nous étions ravis de pouvoir les recevoir. On va essayer de les inviter l'année prochaine. J'espère qu'on aura tous ces désagréments derrière nous. Et voilà, ils ont sorti ce magnifique disque des trios de Beethoven au label Mirare.
Oui, c'est particulièrement difficile pour la musique de chambre aujourd'hui. On leur souhaite bon vent au trio Arnold. Je vous propose qu'on écoute ensemble le scherzo du 3e trio à cordes de Beethoven.
Oui, l'opus 9, le troisième trio, voilà.
Merci beaucoup, Renée Kuhn.
Merci,
bonne journée à vous.
Merci à vous. Au revoir.
Le trio à cordes numéro 5 en ut mineur de Beethoven, opus 9. C'était le scherzo par le trio Arnold. France Musique aussi soutient les jeunes artistes. Vous les entendez chaque samedi dans Génération France Musique le live. Cet après-midi, plusieurs lauréats de l'Académie Mélodie et Lied, du Musée d'Orsay, de l'Abbaye de Royaumont seront invités sur la scène de l'Alliance Française avec Clément Rochefort. Il s'agit de duos, chants et voix qui travaillent donc la mélodie avec de grands mélodistes tels que Véronique Jean et Suzanne Manoff, Thomas Sampson et bien d'autres. Vous pourrez entendre cet après-midi à partir de 16h Axel Fagno soprano et Adriano Spampanato piano, la soprano Agathe Trébuc accompagnée par Paul Montag et puis bien d'autres chambristes invités bien sûr. Et le jeu de ce matin vous offre la possibilité de gagner un CD des sonates de Domenico Scarlatti par le claveciniste Jean Rondeau. Ce jeu préfigure, vous l'avez deviné peut-être, les festivités de demain, car c'est une journée de musique ancienne. Seront réunies sur le site de France Musique les 555 sonates de Scarlatti enregistrées par nos équipes et désormais disponibles dans leur intégralité en vidéo. Plusieurs émissions de France Musique seront donc au cours aux couleurs écarlates, du dimanche écarlate, et donneront à entendre la musique ancienne et ses fameuses sonates de Scarlatti. Il y aura le bac du dimanche de Corinne Schneider, au cœur de l'orchestre de Christian Merlin. J'aurai le plaisir de vous proposer un Musique et moi avec le facteur de clavecin Philippe Humeau. Il y aura Cordes sensibles avec Marina Chiche, la tribune des critiques de disques de Jérémy Rousseau. Alors en avant-goût de cette journée, voici venu le moment de gagner le disque des sonates de Scarlatti par Jean Rondeau. Pour tenter votre chance, rendez-vous sur la page de l'émission Musique Matin, cliquez sur « Contactez-nous », vous laissez vos coordonnées et la bonne réponse à la question suivante. Sur la photo du livret de l'album de Jean Rondeau, on voit un enfant jouer. Mais à quoi joue-t-il ? Joue-t-il au clavecin ou joue-t-il avec des patins à roulettes ? Votre réponse sur francemusique.fr. À tout de suite. Dans Musique et moi, le dimanche, une personnalité du monde culturel, scientifique ou politique livre ses coups de cœur et ses premières émotions musicales. Nous parlons de rencontres avec la musique, de l'intimité nouée avec des œuvres et leurs interprètes. Priscille Lafitte, Musique et moi, rendez-vous tous les dimanches d'11h à 12h30 sur France Musique et en podcast, bien évidemment.
France Musique.
France Musique.
Vous allez la dorer.
Vous allez l'adorer.
Et il est 8h dans une poignée de secondes. Vous écoutez France Musique, vous avez bien raison, nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Marc-Olivier Dupin est en ligne avec nous pour Battement de cœur.
Nous allons vous compter, nous allons vous compter.
Marc-Olivier, bonjour.
Bonjour Priscille.
Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. À l'occasion de cette journée strasbourgeoise qui culminera ce soir avec la retransmission en direct de l'Opéra Aimon, ce sera à 20h, vous nous parlez de création contemporaine pour chœur, pour ensemble vocal ce matin. Est-ce que l'ensemble vocal suscite toujours un grand intérêt auprès des compositeurs ?
Mais oui, et sous de multiples formes, en petit ensemble ou pour grand chœur, a cappella ou avec des formations instrumentales ou orchestrales, pour des jeunes ou des moins jeunes chanteurs également. Écoutons un extrait de Flore de Lise Borel, l'une des dernières créations de la maîtrise de Radio France.
Marc-Olivier, qui sont les commanditaires de ces créations pour chœur ?
Comme chacun sait, la création contemporaine est très soutenue dans notre pays par l'État, les grandes institutions telles que Radio France ou la Philharmonie, les chœurs et les ensembles professionnels, les orchestres et bien d'autres. Les festivals jouent aussi un rôle particulièrement important, et notamment Musica à Strasbourg, qui de tout temps a suscité et programmé de magnifiques polyphonies vocales. Exemple, cette œuvre magnifique de Wolfgang Mitterer, Slow Motion X, pour cornemuse, chœur et électronique. Geoffroy Jourdain, L'Écrit de Paris, 2019.
Et Marc-Olivier Dupin, quelles conséquences aura selon vous la longue interruption du spectacle vivant ? Est-ce que ça risque d'avoir des conséquences sur la création musicale en général, notamment pour les chœurs ?
Écoutez, je ne le crois pas. Je pense au contraire qu'il y aura un désir accru et une créativité galopante des compositeurs à la sortie de ce tunnel. Par ailleurs, la fascination pour la voix, le mot et la polyphonie a traversé tant de siècles et de cultures différentes que l'on peut avoir confiance dans les beaux projets chorales qui ne manqueront pas d'émerger et dans les esthétiques musicales les plus diverses. Retrouvons le chœur de Radio France sous la direction de Sophie Janin, un peu avant le confinement, pour la création mondiale de Viderunt Omnes de Philippe Hersant.
Merci beaucoup Marc-Olivier Dupin d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Toutes vos chroniques battements de cœur sont à retrouver chaque samedi à 8h pétante, mais aussi sur le site de France Musique et sur l'application Radio France. Bonne journée à vous.
Merci.
Musique Matin, Priscille Lafitte, France Musique.
Ce choral ouvre la cantate BWV 205 de Jean-Sébastien Bach, Zerreißer Springer Zerstrümmert die Gruft. Nous entendions le chœur de chambre de Namur et l'ensemble instrumental Les Agréments au pupitre Leonardo Garcia Alarcón, qui montera ce soir sur le podium de la scène de l'auditorium de Radio France pour diriger une passion selon Saint-Jean de Jean-Sébastien Bach, retransmise le 30 mars prochain sur nos ondes. Il sera donc à la tête du chœur et de l'orchestre philharmonique de Radio France. Ce sera l'occasion pour le chef argentin, qui s'est spécialisé dans le répertoire baroque, de transmettre son savoir-faire et un son baroque à cette phalange de la maison de la radio et de la musique. Vous entendrez le fruit de cette collaboration entre Leonardo Garcia Alarcón et l'orchestre philharmonique de Radio France. Donc le 30 mars prochain, ce concert vous sera présenté par Clément Rochefort. Et dès cet après-midi à 18h, c'est le jazz qui vous attend, et particulièrement cette voix-ci qui se promène avec tant d'élégance sur tous les chromatismes de la gamme, c'est la reine Diane Reeves.
Thank you. Makes time a precious thing. Ooh. Sweet miracle. My reach, your infinite will see.
Diane Reeves à Marcillac en 2016, la chanteuse de jazz Soral sur les ondes de France Musique dans les légendes du jazz de Jérôme Badigny. Ce sera l'occasion de l'entendre dans un concert donné 6 ans plus tôt en 1998 au même festival de Marcillac dont elle est donc une fidèle. Et la justesse impeccable de ses scats arpégés nous feront beaucoup de bien. Rendez-vous à 18h. Et ce matin, nous braquons les projecteurs sur la politique culturelle et musicale à Strasbourg. La municipalité de la ville a fait de l'accès à la culture son 18e objectif de développement durable. Les ODD, les objectifs de développement durable, sont donc des objectifs fixés par l'ONU et que les États s'engagent à atteindre au cours des 15 prochaines années. Alors pourquoi avoir ajouté la culture comme objectif de développement durable? Et qu'est-ce que cela signifie concrètement en tant que politique de la ville? Question posée par Sophia Anastasio.
C'est la mandature précédente qui a pris la décision de faire de l'accès à la culture le 18e objectif de développement durable, un objectif que poursuit la municipalité actuelle écologiste. On écoute Anne Mistler, adjointe en charge aux arts et aux cultures de la ville.
C'est une constante de la vie culturelle et artistique à Strasbourg que de se préoccuper non seulement de l'accès à la culture pour tous, mais de pouvoir le faire dans tout ce qui est dans les objectifs qui sont ceux de notre municipalité aujourd'hui, à savoir le développement social, écologique et démocratique.
Le budget alloué à la culture s'élevait à 46 300 000 euros en 2018. Et dans l'examen d'un projet culturel qui souhaite être subventionné, les notions de respect de l'environnement sont également prises en compte.
Évidemment, c'est d'abord le contenu culturel et le sens du projet culturel et artistique qui fait l'objet d'une attention extrêmement forte. Mais évidemment, on regarde aussi quelles sont les incidences et quel est le respect de ces préoccupations par les porteurs de projets eux-mêmes. Et s'il nous apparaît que, disons qu'il y a une nonchalance, on va dire ça comme ça, on discute avec eux, on échange avec eux sur ces préoccupations-là pour attirer leur attention. Mais honnêtement, très souvent, il n'y a pas besoin de le faire parce que c'est des choses qui sont parfaitement intégrées.
Anne Mistler souligne en effet la sensibilité écologique des artistes depuis de nombreuses années, souvent eux-mêmes précurseurs sur ces questions.
Ils ont tous intégré et depuis longtemps la question des mobilités, la question des circuits courts, de la mutualisation d'un certain nombre de pratiques, comme par exemple dans la fabrication des décors. Et puis, depuis très longtemps aussi, ils sont très très sensibles justement à la question aussi de la gestion des déchets. Hein. Donc, depuis longtemps, on n'est plus du tout... Bon, d'abord, en ce moment, il n'y a plus du tout de vernissage et de cocktails éventuellement après des premières. Mais depuis longtemps, c'était déjà, je veux dire, il n'y avait plus de choses en plastique, voilà.
Il n'y a en effet plus de vernissage, plus d'exposition, plus de spectacles depuis plusieurs mois en raison de la crise sanitaire. Et comme beaucoup de lieux de culture en France, le Théâtre National de Strasbourg est en ce moment occupé par des artistes. Habité, nous reprend Anne Isler.
Le Théâtre National de Strasbourg a une école du TNS et les étudiants comédiens, régisseurs, metteurs en scène ont décidé depuis quelques jours de rester sur place dans leur lieu de travail, dans leur lieu d'exercice et donc ils parlent d'une habitation de leur théâtre qui se manifeste évidemment dans l'espace urbain par quelques performances qu'ils font en dehors de leurs heures de travail, c'est-à-dire notamment entre midi et deux, et qui manifestent l'importance qu'ils éprouvent eux par rapport à l'incertitude de leur propre avenir.
Une incertitude qui rejoint plus généralement celle de la jeunesse qui se joint à eux dans les performances à l'extérieur du théâtre, tout en étant soutenue par la population strasbourgeoise, grande amatrice de culture, affirme Anne Missler.
Un dossier signé Sophia Anastasio.
Musique Matin, Priscille Lafitte, France Musique.
Alors nous allons justement pouvoir parler de la place de la musique et de la création au sein de la ville de Strasbourg avec nos deux invités. Ce matin, ils sont en duplex depuis les studios de France Bleu Alsace. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Merci à vous d'être présents ce matin. Alain Perroux, directeur de l'Opéra National du Rhin. Zad Moultaka, qui signe la musique d'un nouvel opéra, Aimon, diffusé ce soir en direct sur France Musique en création mondiale. Et dont voici un extrait tiré de la répétition générale.
Des fragiles, soucieux pour la plupart d'éviter la brisure. Peuple de Thèbes, sont tout le bien que c'est de se bannir pour ce qu'on a. De s'accepter pour ce qu'on a. Oedipe, dans ton aveuglement, tu aurais été plus fragile que trompeur. Polynice, dans ta dissidence plus fragile que traître. Créant dans ton entêtement plus fragile que plus fragile que faible. Antigone, dans ta justice plus fragile que cette lignée, je prouve toute la fragilité de mon désistement.
Mmh. Nous entendons à l'instant le chant de Aymon dans la voix du contre-ténor Raphaël P. Ce chant clôt l'opéra qui sera donné ce soir en création mondiale à l'Opéra National du Rhin à Strasbourg. Zad Moultaka, vous signez la musique de cette pièce. Vous êtes également plasticien. Alors, pour que nous puissions imaginez en tant qu'auditeur de radio ce soir ce qui se passe sur scène. Est-ce qu'il y aura une forme de mise en scène ou est-ce que les musiciens et les chanteurs seront sur scène à la façon d'un concert?
Alors, il y a une forme. Ce n'est pas vraiment une forme de mise en scène. On a été un peu obligé de, avec les distanciations, avec les problèmes que vous connaissez, de placer les musiciens et les chanteurs d'une certaine manière. Mais du coup, ça donne quelque chose d'assez impressionnant. Du jamais vu en quelque sorte, puisque les musiciens d'orchestre ne peuvent pas être dans la fosse, mais ils sont partout sur la scène, et les solistes sont donc au milieu vers le public, et les choristes qui sont censés normalement être en dehors de l'espace du public et même de l'espace de la scène dans la conception de la scénographie, disons, de la mise en scène, ils seront dans le parterre de l'opéra. Donc en fait, les quelques personnes qui seront là, ils seront au-dessus de la scène, et on verra en fait une quarantaine de choristes sur le parterre et ensuite tout l'orchestre. Donc on voit l'ensemble des musiciens en dessous de nous, et c'est assez assez beau à voir.
Cet opéra que vous signez, Zad Moultaka, est basé sur un livret de Paul Audy, et cette œuvre réunit des personnages tirés des écrits de Sophocle. On retrouve Créon, roi de Thèbes, la reine Eurydice, leur fils Aymon donc, et puis Antigone, fiancée d'Aymon et nièce de Créon. C'est une pièce centrée non pas sur la personne d'Antigone, mais sur les réactions d'Aymon qui est tiraillé entre la violence et la peur, entre la démonstration de puissance et ses propres fragilités. Qu'est-ce que, dans le texte de Paul Audy, vous avez tiré? Qu'est-ce que cette mythologie donne à entendre de notre époque à nous, Zad Moultaka?
Alors, au départ, donc Paul Audy m'a proposé de travailler sur le personnage de Aymon. Et d'ailleurs, ce que vous avez passé comme extrait résume vraiment bien la thématique de la fragilité, du rapport entre la fragilité et la force. Et quand on a discuté de ça, je me suis retrouvé aussi avec mes propres préoccupations. Personnellement, je trouve qu'il y a cette attitude vis-à-vis du pouvoir qu'on voit d'ailleurs très très bien dans un pays comme au Liban par exemple, mais évidemment c'est une thématique qui est beaucoup plus universelle, et c'est là la force de se livrer aussi, où le pouvoir se passe de l'arrière-grand-père au grand-père, du grand-père au père, du père au fils, du fils au petit-fils, et cette espèce de prise en otage du pouvoir sans une véritable conscience politique. Et ce qui est beau dans ce personnage de Aymon, c'est que finalement, il casse toute cette chaîne-là. Et il la casse en faisant une sorte de cheminement initiatique, en fait, de cheminement intérieur, qui va l'amener à se débarrasser de cette, entre guillemets, de cette force, de cette fausse force du pouvoir, et qui va l'amener vers un désistement. Et tout ça est généré par cette fragilité où finalement on se pose la question, est-ce que c'est une fragilité ou est-ce que c'est une force ?
Cruelle désillusion, petit-fils de Ménécée, vous renoncez au trône. Ô prince, votre choix nous heurte, il nous fâche. Les désastres qu'il craint de répéter, oh, il les rappelle à mains égales. Le choix que vous faites, Aymon, que fera-t-il de vous?
craignez qu'il ne vous condamne à une rude, aride et haute solitude.
La toute fin de cet opéra, Aimon, à l'instant où, ce moment où Aimon renonce donc au pouvoir, vous nous disiez à l'instant, Zan Boultaka, combien cette attitude d'Aimon est significative pour vous, combien elle tend un miroir au népotisme au Liban, si j'ai bien compris.
Oui, entre autres, bien sûr. Mais c'est une problématique, comme je disais tout à l'heure, vraiment universelle. Et moi, personnellement, je pense que le salut est dans une forme d'écoute intérieure, en fait, et de trouver le sens des choses à l'intérieur de soi.
À propos d'écoute, parlons de votre musique, Zan Boultaka, de la partition que vous avez écrite. Quelle contrainte est-ce que vous vous êtes fixée à partir du livret de Polody?
Contrainte, c'est une
possibilité
difficile. En fait, j'étais porté par le texte, qui est magnifique, et après c'est la difficulté de la création, donc à chaque moment d'être juste dans chaque pas, que chaque pas puisse oui être à sa place pour pouvoir construire un édifice aussi énorme. Donc après c'est tout le travail de la création qui est difficile.
Vous avez choisi un quatuor vocal assez classique, somme toute, un contre-ténor dans le rôle d'Aimon, le roi Créon et baryton, Antigone et soprano, la reine Eurydice et mezzo-soprano. On a entendu aussi une basse, plusieurs récitants, il y a aussi un chœur. Pourquoi ces choix-là de tessiture, spécifiquement ?
Alors, j'aimerais quand même mettre le pain sur quelque chose de très particulier dans le choix, spécifiquement par rapport à la voix d'Aimon. Là, on entend la fin, donc le retour de Aimon avec sa voix de contre-ténor, mais tout le début et une grande partie de l'opéra avant qu'il ne parte et qu'on sache pas en fait qu'on se pose la question, est-ce qu'il s'est suicidé comme chez Sophocle d'ailleurs, où est-ce qu'il est. Toute cette partie-là, elle est en voix de baryton. Et c'est là, en fait, c'était un choix difficile parce que c'est très rare d'avoir quelqu'un comme Raphaël P. qui soit capable justement de jongler et de chanter avec ses deux voix dans la même soirée, dans la même œuvre. Donc en fait, il y a une trajectoire en fait pour ce personnage, comme je vous disais tout à l'heure, cette trajectoire qui est une trajectoire de transformation intérieure, et j'ai eu envie que la voix aussi suive cette transformation. C'est pour ça que les mots commencent en baryton et ils terminent par la voix de contre-ténor. Les autres voix, c'est vrai que Ilos, qui représente la loi, évidemment j'ai été vers une voix plutôt de basse profonde. C'est vrai que c'est une manière un peu classique, entre guillemets, de penser les voix. Mais c'est pas par hasard aussi que on va vers ce genre de d'évidence parfois.
Nous parlions de création de chœur pour chœur avec Marc-Olivier Dupin un tout petit peu plus tôt dans cette matinale, et vous avez à plusieurs reprises composé pour chœur, notamment dans cet opéra. Que permet pour vous l'écriture chorale?
La texture des voix, pour moi, c'est quelque chose la voix, déjà, c'est quelque chose de très important, puisque tout vient de là. Et puis c'est le premier contact de l'humain avec l'émotion. Ensuite, par extension, il y a les instruments, bien sûr, qui apportent encore une autre dimension. Et pour moi, la voix dans le groupe, c'est quelque chose aussi de très très important, parce que on aussi, et puis dans l'opéra, forcément, on a entendu tout à l'heure la fin avec Aimon, qui est, en fait, dans cette scène finale, il y a tout le monde qui se tait, il n'y a plus d'orchestre, il n'y a plus rien. Il est dans sa solitude extrême, sur le vaste espace de la scène. Et on a toujours cette scansion du cœur. Donc pour moi, c'est très important le rapport entre l'individu et le collectif. Et il y a toujours pour moi un jeu entre un questionnement depuis toujours sur comment articuler l'individu qui soit pas opposé au collectif, mais qui sorte vraiment du collectif. Ça, c'est une notion qui est vraiment importante.
Thank you.
Le directeur de l'Opéra du Rhin, Alain Peyrouz, se trouve également aux côtés de Zad Moultaka dans les studios de France Bleu Alsace à Strasbourg, en duplex. Alain Peyrouz, peut-être souhaitez-vous intervenir pour évoquer votre choix de mettre le Liban au centre de la programmation Ars Mondo cette année. Je vois que vous allez mettre en ligne un grand nombre d'entretiens filmés avec des noms de la littérature, du cinéma, du théâtre, de la musique au Liban. Que nous disent-ils des aspirations du pays en ce moment ?
Écoutez, en fait, ce choix n'est pas tout à fait le mien, mais je suis très heureux qu'il ait été fait il y a quelques années par Eva Kleinitz, la précédente directrice de l'Opéra du Rhin, et Christian Longchamp, qui était son dramaturge et qui continue de s'occuper d'Ars Mondo. C'est un festival interdisciplinaire qui a été inventé par Eva et Christian et qui articule sa programmation, qui fait appel à pas mal de partenaires à Strasbourg, les cinémas, les théâtres, les musées, etc. Toujours autour de la culture d'un pays extra-européen. Et ils avaient décidé de choisir le Liban. Et il est vrai que, rattrapé par l'actualité douloureuse de ce pays, qui a une histoire déjà assez douloureuse depuis pas mal d'années, mais spécialement depuis l'été dernier,
les explosions meurtrières ravivées, dans le port de Beyrouth, voilà. En août 2020.
Oui. Exactement, oui, vous faites bien de le rappeler. Et c'est vrai que du coup, ce choix était d'autant plus pertinent, et cela nous permet de parler sans doute de cette réalité-là, mais aussi de rejoindre des questionnements universels, tels celui que Zad a évoqué tout à l'heure. Et pour ce faire, nous avons la chance d'avoir pu, c'est Christian Longchamp qui a réussi à embarquer dans cette programmation des grands écrivains, des grands auteurs, notamment Etel Adnan, et on pourra donc assister à des lectures, à des rencontres, on pourra prendre connaissance de films dont certains créés tout spécialement pour l'occasion, tout cela en version numérique sur le site de l'ONR, donc onr.fr, le site de l'Opéra National du Rhin.
Alors si nous entendions à l'instant l'adagio de la Grande Partita de Mozart, c'était un enregistrement par l'ensemble Les Dissonances réunies par David Grimal, c'est que cette sérénade est au programme du ballet Danser Mozart au XXIe siècle. Ce sont deux danseurs chorégraphes de votre compagnie, je crois, des ballets du Rhin, qui s'interrogent, c'est ça ?
Pardon, je vous reprends, oui, parce qu'ils sont sept en réalité. Enfin, il y a eu deux spectacles différents, d'accord, de ballet autour de Mozart, l'un qui s'appelle Danser Mozart au XXIe siècle, effectivement, avec deux chorégraphe danseur en fait de la compagnie qui s'essaye à la chorégraphie, mais donc on peut le voir d'ailleurs sur notre site, ce spectacle, il a été filmé en décembre, mais il se trouve que nous avons aussi filmé un spectacle qui date de la saison dernière et qui est un peu sur le même principe, c'est-à-dire que là en l'occurrence ce sont sept danseurs du ballet de l'Opéra du Rhin qui ont chorégraphié leurs collègues dans les sept mouvements de la Grande Partita de Mozart. Et cela aussi, donc nous l'avons filmé et ce spectacle peut être visionné sur notre site.
Oui. Alors comment vont vos chanteurs, comment vont les instrumentistes, comment vont vos danseurs en ce mois de mars 2021 ? Quel est le climat chez vous ?
Écoutez, le climat... c'est un climat, je dirais, de résilience, de courage, de force, d'obstination, puisque tout le monde est sur le pont. La maison continue de, enfin, le bateau ONR continue de voguer tant bien que mal. Nous avons en effet, toutes les équipes ont beaucoup travaillé ces derniers mois. Nous avons réalisé les nouvelles productions qui ont été filmées, Hänsel et Gretel en décembre, La mort à Venise de Britten. En février, le spectacle sera diffusé sur les chaînes régionales et sur France 3 le mois prochain. Nos forces sont mobilisées, les artistes du chœur, beaucoup, l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, pour créer cette œuvre de Zad Moultaka, et que nous créons mondialement ce soir. Alors, malheureusement pas en version scénique, mais du moins en version radiophonique, et on est très heureux que France Musique puisse créer cet événement-là, parce que c'est toujours émouvant de créer un nouvel opéra. Et puis le ballet n'est pas en reste, le ballet aussi a réalisé des spectacles qui ont été filmés, où il y a aussi une grande création d'après Les Ailes du Désir de Wim Wenders, chorégraphié par le directeur de notre ballet, Bruno Boucher, un magnifique spectacle qui est prêt, donc que nous pourrons donner au mois de novembre, on l'a reporté. D'ailleurs, tous les spectacles que nous n'avons pas pu donner depuis un an, à partir du moment où ils ont été construits et où ils sont pratiquement prêts, eh bien, ils seront reprogrammés dans les saisons à venir.
Dans le reportage de Sofia Anastasio, je ne sais pas si vous avez pu l'écouter un peu plus tôt, il était question d'allier la culture au développement durable à Strasbourg. Est-ce que ces enjeux-là sont sur la table lorsque vous prenez des décisions au quotidien, ou est-ce que l'urgence est ailleurs pour vous en ce moment ?
Écoutez, je pense qu'il y a pas de concurrence entre les urgences. Il y a certes une urgence sanitaire en ce moment, mais la question climatique, c'est aussi une urgence. Donc c'est effectivement une question qui nous habite constamment et qui est présente quand on doit faire des arbitrages sur des questions de décor que l'on peut recycler, quelle partie on peut recycler, etc. Ça, ce sont des réflexions qui ont été déjà lancées depuis pas mal de temps à l'Opéra National du Rhin, mais qui sont toujours plus présentes dans notre esprit, en dehors des réflexes du quotidien, ça, qui sont intégrés. Anne Missler en parlait tout à l'heure, évidemment, hein, le recyclage du papier, éviter les plastiques, etc. Mais c'est vrai que, de manière plus générale, sur la mutualisation des forces, sur le recyclage des décors, sur les circuits courts, la question des transports, ce sont des questions qui sont toujours présentes, qui aujourd'hui, je crois, doivent s'imposer aussi à nous, les gens qui travaillent dans le monde de la culture.
Merci beaucoup Alain Perroux, directeur de l'Opéra National du Rhin. Merci à Zad Moultaka à vos côtés, qui est compositeur et plasticien. Et donc à ce soir sur notre antenne pour la création de l'Opéra Aimon en direct et en création mondiale sur France Musique. Un grand merci aussi aux équipes de France Bleu Alsace pour la liaison en duplex. Je vous donne donc rendez-vous avec Judith Chen ce soir à 20h pour un samedi soir, l'Opéra qui ouvrira cette semaine dédiée à la musique contemporaine. Et voilà, il est 8h50, c'est l'heure de retrouver la chronique de Christophe Chassol. Christophe Chassol qui a enregistré cette chronique il y a quelques jours en compagnie de Saskia Deville. Que nous proposez-vous de découvrir ce matin, Christophe ?
Nous allons parler d'un arrangeur anglais qui a beaucoup travaillé avec les Français dans les années 60 et il s'appelle David Whittaker. Ça vous dit quelque chose, ça?
Mais oui, ça me dit quelque chose.
Je sais. Attendez, ça va venir. Il y a des notes de cordes qui vont arriver, des violons. Écoutez.
Ah oui!
Alors, qu'est-ce que c'est pour vous?
Bittersweet Symphony.
Voilà.
The Verve.
Mais c'est pas ça, en vrai.
Non, ça doit être
en vrai,
plus vieux que ça.
Bah oui, en vrai, c'est David Whittaker, puisqu'on fait une chronique sur David Whittaker. Et ce morceau qui s'appelle The Last Time, c'est un morceau des Stones à la base.
Quel magnifique morceau.
Ah, il est super, surtout grâce à ces notes de violon, vous êtes d'accord?
Oui, on est complètement d'accord.
Elles ont tout changé. Et Verve, il y a eu vraiment tout un truc de droit d'auteur, une embrouille totale entre l'ancien manager des Stones, Verve, et puis David Whittaker, etc. Mais David Whittaker a rajouté ces trois notes sur ces trois accords, ces quelques notes de violon, et voilà, c'est là qu'on voit tout le talent des arrangeurs, en fait. Mm. Je vous parle souvent d'arrangeurs ici.
Absolument.
Parce que je trouve que c'est des métiers, un peu comme au cinéma où les monteurs sont pas assez reconnus, et ben les arrangeurs, je trouve qu'ils sont pas assez reconnus, et moi je conseille à tout le monde d'aller sur les pochettes des disques que vous aimez, de regarder qui arrange les morceaux, et d'aller acheter les disques de ces arrangeurs.
Ah, c'est une bonne manière de découvrir aussi d'autres choses.
Et mais tout là, les crédits des pochettes de disques, c'est des trésors. Mm. Donc allez regarder vraiment les arrangeurs, notamment, je vous avais pas souvent parlé de Don Sebesky ici. C'est pour moi le meilleur des arrangeurs. Mais là, on parle de David Whittaker. Et il y a quelqu'un que j'aime beaucoup en France qui s'appelle Bertrand Burgala, sur son label Tricatel, qui a ressorti un disque qui s'appelle David Whittaker Songbook, avec une compilation de morceaux, de différents morceaux et travaux de David Whittaker, qui est donc anglais, né en 31, mort en 2012 à 81 ans. Et il a beaucoup travaillé, donc grâce à l'arrangeur des Stones, avec il a fait des arrangements pour Marianne Faithfull, cette fille qui s'appelle Vashti Bunyan, je vous ferai une chronique un jour. Il a fait des hommages aux Stones, aux Beach Boys, et puis il y a eu un revival en France, je vous en parlerai tout à l'heure. Là, on va écouter une musique de film qu'il a écrite en 69, qui s'appelle Run Wild, Run Free. Ça veut dire cours vite, cours sauvagement, cours librement. On écoute. Mm-hmm. On dirait quelque chose de très classique, mm-hmm. genre forêt, je sais pas.
Oui, c'est vrai.
Ça me fait penser à des choses comme ça. Bon, ce film, c'est marrant ce film. D'ailleurs, l'acteur, bon, j'ai regardé un acteur qui s'appelle Mark Lester, qui joue un jeune garçon. Et ben, en fait, c'est le père des enfants de Michael Jackson. Figurez-vous. Bon, c'est une anecdote comme ça que je vous file. C'est le père biologique de Paris Jackson. Bref.
C'est donc ça.
Et voilà. Dans ce film, il y a un thème qui est assez génial, que j'aime bien, qui fait. Ben, on va l'écouter. Écoutons-le.
C'est amusant, ça sonne inquiétant.
Ah oui?
Oui, je trouve.
C'est ce son de
clavecin. C'est une mélodie un peu naïve.
Ouais, ça, inquiétant, ouais, moi je le vois vraiment comme un truc très. Enfin, vraiment l'émotion oui. pure. Mais je pense que c'est le clavecin qui a été très teinté film d'horreur, peut-être.
Oui.
Écoutez, dans ce thème, il y a un moment qui est du pur jus pour moi. Si, la, do, si. On va l'écouter quelques fois. Vous avez le sol, fa, fa. Encore une fois. Sol, fa, la. Oh, j'adore. Encore une fois, s'il te plaît, Félix. Oh là, j'adore. Bon voilà, je me repasse ces trucs-là des milliards de fois en fait. Une petite variation encore de ce thème. Et là. Sur ce disque Songbook de David Whittaker, donc édité par Tricatel et Bertrand Burgala, il y a vers la fin une chanson que j'adore qui s'appelle Chanson indienne. Et alors vous allez essayer de trouver l'interprète, d'accord ?
Avec plaisir.
C'est parti. Mais oui, c'est Chance Gall.
Mais oui,
il a beaucoup bossé avec les yéyés. Johnny Hallyday, Vartan, Claude François, Gainsbourg, Comic Strip, il a enregistré beaucoup. Bon, je vous laisse écouter.
Je ne connais jamais l'un de mon merveilleux pays. La terre sèche, le peuple
pris.
Je voudrais que tombe la pluie, que les enfants n'aient plus faim dans mon pays.
Voilà, c'est super bien arrangé. C'est sur un album. Pardon, oui.
Allez-y.
C'est sur un album qui s'appelle 1968. De France Gall, et chaque morceau est dément sur cet album.
Oui, merci beaucoup pour cette découverte. Christophe Chassol, votre chronique est à retrouver évidemment sur le site de France Musique et sur l'application Radio France. Cette chronique a été enregistrée il y a quelques jours aux côtés de Saskia Deville, que vous retrouverez très bientôt à ce micro. Un mot sur le jeu concours lancé juste avant 8h. Il s'agissait de décrypter la photo de l'album de Jean Rondeau, réunissant plusieurs sonates de Scarlatti. Et on y voit Jean Rondeau enfant sur des patins à roulettes. Voilà, nous allons tirer au sort les trois gagnants qui pourront recevoir ce CD chez eux dans leur boîte aux lettres. Merci à l'équipe aux manettes de Musique Matin, Félix Levachet à la réalisation, Emmanuel Morse-Duncan à la prise de son, attaché de production Marie Ferdinand.
À réécouter sur francemusique.fr.